Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 12, nous allons lire les versets 1 à 8, mais nous focaliser sur les versets 3 à 8 ce matin. Lisons à partir du verset 1, Romains chapitre 12, donc à partir du verset 1, et voici la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et jusque-là, la parole de Dieu. Au IVe siècle de notre ère, Ambroise, qui était évêque de Milan, écrit à Augustin, qui est en voyage à Rome. Il lui dit, « Si tu es à Rome, fais comme les Romains. » Paul est arrivé à un point dans sa lettre où il dit le contraire. Il est arrivé à un point dans sa lettre aux Romains où il veut que ses lecteurs comprennent sans qu'il n'y ait de confusion possible que lorsqu'ils vivent à Rome en particulier, ils ne doivent pas vivre comme les Romains, mais comme des saints, comme les enfants de Dieu. En fait, Paul a été clair à ce sujet dès le début de cette lettre, dans la manière dont il les a salués, Romains 1, verset 7, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, appelés à être saints. Ils sont saints en Christ, séparés pour Dieu, mais ils sont aussi appelés à être transformés à son image, à l'image de Christ. Certains des lecteurs à qui Paul s'adresse étaient citoyens de Rome, d'autres étaient esclaves. Mais ils ne doivent pas vivre à Rome comme si Rome était leur résidence principale, comme si le fait d'être citoyen romain était la chose la plus importante au monde. Ils vivent à Rome, mais ils sont citoyens des cieux. Ils vivent dans un monde impie, le monde profane de Rome, mais ils ont été appelés par Dieu à être son peuple, les enfants saints mis à part pour Dieu. Ils sont appelés à vivre dans ce monde de l'ancienne humanité, comme ceux qui ont été incorporés dans la nouvelle humanité. Ils sont appelés à vivre dans le monde de la malédiction d'Adam, comme ceux qui ont été amenés dans le monde des bénédictions du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul a souligné cela dans les deux premiers versets de ce chapitre. On l'a vu, il appelle les chrétiens à ne pas se conformer au siècle présent, au monde actuel, à ne pas suivre l'esprit de ce monde, de se laisser guider par lui, mais à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Dans sa lettre aux Galates, au chapitre 1, verset 4, Paul écrit que le Seigneur Jésus-Christ est livré pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 13, Paul décrit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le chrétien, le vrai chrétien, fait partie d'une humanité nouvelle en Christ. Une humanité que Dieu est en train de façonner à l'image de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. On a vu en Romains chapitre 8 que c'était, du moins de notre point de vue, que c'était la passion de Dieu. Dieu a décidé de choisir un peuple et de le refaçonner à l'image de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a donné son Fils comme sauveur, comme substitut, comme représentant. Comment est-ce qu'il ne nous donnera pas aussi toute chose avec lui? Et on a vu que rien ne peut nous séparer de cet amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Et dans le reste de la lettre aux Romains, à partir de ce verset 3 du chapitre 12 jusqu'à la fin, on a en fait qu'une succession d'images, d'illustrations, d'applications de ce principe pour nous amener à réaliser que le but, le dessein de Dieu dans notre vie, c'est de nous transformer, de nous faire ressembler toujours plus à l'image de Christ. C'est une question de transformation, pas une transformation par le vide, par la méditation orientale, ni une transformation par une liste de propositions, une liste de règles à suivre. Non, une transformation par la vérité de l'Évangile. Cet Évangile qui vient nous imprégner de plus en plus et qui nous fait grandir en maturité, afin que nous ressemblions toujours plus au Seigneur Jésus-Christ. Et on a vu dans les versets 1 et 2 que le principe clé de cette transformation, c'est ce que Paul appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est quand l'intelligence est renouvelée, quand les affections sont tournées vers le Seigneur Jésus-Christ, toujours plus, que nos vies est transformée, notre vie est transformée, que l'on découvre de plus en plus combien il est heureux de vivre au centre de la volonté de Dieu. Et Paul maintenant va nous amener, et il le fait pendant jusqu'à la fin de cette lettre, à répondre à la question suivante. Comment est-ce que cela se manifeste en pratique? Qu'est-ce que cela veut dire, ressembler à Christ dans les différentes sphères de ma vie? Et même si à la lecture, on pense que Paul passe d'un sujet à un autre, quand on regarde de plus près, on voit que Paul nous démontre à nous qui faisons partie de cette nouvelle humanité en Christ, mais qui vivons dans le contexte de l'ancienne humanité en Adam. Paul nous démontre que faire partie de cette nouvelle humanité et réaliser que nous faisons partie de cette nouvelle humanité transforme notre manière de vivre, et cela dans tous les domaines, dans toutes les sphères de nos vies. Paul veut nous aider à réfléchir bibliquement, à raisonner bibliquement et voir la transformation de nos vies. Par exemple, si on survole le reste de cette lettre à partir du verset 9, Paul va enseigner comment le croyant doit se voir et vivre avec les autres qui sont dans l'Église. Dans les versets 14 à 21, Paul enseigne aux croyants comment il doit se voir et vivre au milieu de ceux qui s'opposent à lui en tant que chrétien. Au début du chapitre 13, Paul enseigne les croyants à réfléchir clairement et à vivre comme Christ par rapport à ceux qui exercent l'autorité sur nous, autorité politique, autorité juridique. Le reste du chapitre 13, Paul nous enseigne comment nous devons penser et vivre avec ceux qui sont autour de nous, nos voisins. Chapitre 14, verset 1, jusqu'au chapitre 15, verset 13, Paul nous enseigne comment nous devons réfléchir et comment nous devons répondre à ceux qui, dans l'Église, ont des convictions différentes des nôtres. Et même s'il semble prendre du temps Avant la salutation finale, Paul veut enseigner comment les croyants, à Rome en particulier, doivent voir leur vie en relation à lui, qui est un de leurs guides spirituels, un de leurs enseignants. Et en fait, même si Paul semble passer d'une chose à l'autre, en fait, il y a une belle unité dans le reste de cette lettre. Une unité donc qu'on peut résumer sous ce titre « Comment vivre une vie qui ressemble à Christ dans un monde impie ?» Le problème, c'est que personne ne vient à la foi chrétienne, personne ne devient chrétien avec Romains 1 à 11 gravé dans son esprit. Mais parfois, on a cette présupposition bizarre qui nous fait penser que maintenant que nous sommes chrétiens, le seul domaine où nous n'avons pas besoin d'enseignement, c'est comment vivre la vie chrétienne. Et Paul est désireux que nous comprenions que la nature de l'Évangile est telle que l'Évangile touche toutes les sphères de la vie, toutes les parties de notre vie. Il n'y a aucune partie de nos vies qui ne vient sous la puissance de transformation de l'Évangile. Cette transformation que Dieu produit en nous par son Esprit Saint qui applique l'Évangile à nos cœurs. Et c'est intéressant de noter que lorsque Paul aborde cette question au verset 3, il commence par la façon dont nous devons nous voir nous-mêmes avant de considérer d'autres points dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Comment le chrétien doit-il se voir? Comment devons-nous nous voir si nous faisons partie de ceux qui veulent être transformés par le renouvellement de l'intelligence? Et Paul dit trois choses. Ce sont les trois points de notre message. Le chrétien, tout d'abord, doit savoir qui il est réellement en Christ. Quelle est son identité en Christ? Le chrétien, deuxièmement, doit savoir à quel camp il appartient. Quelle est son appartenance? Troisièmement, le chrétien doit savoir ce pourquoi il est en Christ. Quel est le but? Pour quelle raison? Premièrement, donc, le chrétien doit savoir quelle est son identité en Christ. C'est important de savoir, c'est même très important de savoir qui nous sommes réellement en Christ. Parce que la façon dont on se voit, dont on se considère, de manière consciente ou inconsciente, la manière dont on se voit va déterminer la façon dont on vit. C'est la raison pour laquelle Paul souligne que c'est par le renouvellement de l'intelligence que la transformation de nos vies se passe. Comme le dit le Proverbe 23, verset 7, « L'homme est comme les pensées de son âme. » Ou une autre traduction dit « Selon ce qu'il médite en son âme, ainsi est l'homme. » Et c'est ça, c'est écrit partout dans nos vies. Ce que nous pensons réellement de nous-mêmes va toujours s'exprimer dans notre attitude, dans notre comportement, dans notre conversation. On ne cesse de donner des indices, même si on ne le voit pas toujours, même si on n'est pas toujours conscient. Mais on donne des indices au sujet de la façon dont on se considère nous-mêmes et dont on considère les autres. Et Paul est préoccupé au début de ce passage. Il veut que le croyant réfléchisse de manière claire, de manière biblique, au sujet de lui-même, au sujet de son identité en Christ. Et c'est mis en avant par le nombre de fois que Paul utilise une forme ou une autre du verbe « penser » dans ces versets. Ce n'est pas aussi clair en français, mais on peut quand même suivre le raisonnement de l'apôtre, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Littéralement, c'est de ne pas penser au-delà de ce qu'il faut penser, mais de penser en vue de penser sain, en vue de penser saine, de penser raisonnable, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Et on a là une leçon pour le chrétien. Comment il doit apprendre à réfléchir, à penser à son sujet. Paul nous dit N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même, mais ayez une opinion saine, une opinion pondérée, raisonnable au sujet de qui vous êtes en Christ. Ne vous voyez pas plus grand que ce que vous n'êtes. Ayez une vue raisonnable. Et notre traduction essaye de capturer cela. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. C'est très facile pour nous d'être enivrés de nous-mêmes, d'être ivres de nos propres intérêts, de nos propres vies, de nos propres besoins, de nos propres succès, ou inversement, de nos propres manquements, ivres de soi-même. Et Paul nous pousse à réfléchir, à penser de nous-mêmes d'une manière sobre, saine, modeste, parce que l'ivresse de soi est quelque chose de dangereux, comme toute forme d'ivresse. Qu'est-ce qui se passe chez une personne qui est ivre? La personne perd son sens de bienséance, elle perd son équilibre, elle perd sa capacité de réfléchir de façon claire, elle perd sa capacité de marcher droit. Très souvent, la personne ivre tombe dans l'exagération, elle perd toute notion de proportion. Et le problème, quand on perd toute notion de proportion à notre propre sujet, c'est qu'on est toujours la dernière personne à s'en rendre compte. Et Paul nous dit, vous voyez ce genre de choses dans le monde, mais l'effet de l'Évangile est tout autre, est à l'opposé de cela. L'Évangile vous aide à réfléchir de façon claire à votre propre sujet, ne pas être obsédé avec vous-même. La merveille de l'Évangile, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à nous oublier nous-mêmes. Et quand on apprend à s'oublier nous-mêmes, on apprend de plus en plus à réfléchir, à penser au sujet de soi-même de façon claire. On peut être enivré de notre propre importance, de notre propre valeur dans le monde, dans l'Église. Mais il n'y a pas que le danger d'avoir une trop haute opinion de soi-même. Il y a aussi le danger de ne pas penser clairement à notre propre sujet, de développer une fausse humilité. Il y a des chrétiens qui ne cessent de se dévaloriser. Et très souvent, c'est face à un autre chrétien qui a plus de dons, apparemment. Mais cela veut dire que cette personne n'a pas été délivrée de l'obsession de soi-même pour profiter des dons de l'autre, de vivre avec les dons que Dieu lui a accordés. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont un compte Twitter ou un compte Instagram pour raconter au monde entier les banalités de leur vie, comme si cela était vital pour l'univers. On voit les émissions de télé-réalité, des personnes qui ne font rien de bien extraordinaire, mais elles sont obsédées avec elles-mêmes. Elles n'ont jamais été délivrées de cette obsession. Mais on peut avoir la même attitude, parce qu'on pense avoir accompli de grandes choses, parce qu'on pense avoir atteint un certain niveau d'influence, ou à l'inverse, parce qu'on pense n'avoir rien accompli d'important, et on pense qu'on n'a aucune importance. La merveille au sujet du chrétien, et on l'a vu dans le chapitre 5, chapitre 6, 7 et 8, la merveille au sujet du chrétien, c'est que sa véritable identité ne se trouve pas en lui-même, elle se trouve en Christ. Et l'une des choses merveilleuses que Paul fait ressortir de ce passage, c'est que, quels que soient les dons de chacun, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, quels que soient les dons, nous partageons une identité commune en Jésus-Christ. Nous avons été rachetés par le sang du Sauveur, du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne faisons plus partie de la famille d'Adam, nous appartenons à la famille de Jésus-Christ. Et au moment où nous sommes transférés de l'ancienne famille d'Adam à la famille de Jésus-Christ, il n'y a aucun d'entre nous, pas un seul, qui soit davantage membre de Christ qu'un autre. Nous sommes tous, si nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, si nous sommes unis à Christ, nous sommes tous membres. Il n'y a pas un qui est plus membre que l'autre. Nous sommes tous membres du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que le renouvellement de mon intelligence vient par l'Évangile. Et on l'a vu, Paul souligne qu'il y a cet ordre d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Une déclaration passive sous une forme impérative. Comment est-ce que cela est appliqué dans nos vies? Nous avons vu que c'est par la puissance de l'Évangile qui renouvelle notre intelligence, qui purge notre ancienne façon de penser au sujet du monde, au sujet de nous-mêmes. Il marque son empreinte, il marque de son empreinte notre intelligence, notre façon de penser, notre façon de voir. Et plus nous pensons à nous-mêmes en relation avec le Seigneur Jésus-Christ, moins nous aurons de fausses pensées à notre propre sujet. Si nous sommes un Christ, nous sommes entièrement un Christ. Il n'y a pas un qui est plus à Christ qu'un autre. Nous avons donc le besoin de connaître, de savoir quelle est notre identité en Christ. Deuxièmement, nous sommes appelés à savoir à quel camp nous appartenons réellement. C'est la suite du premier point. Qui suis-je en tant que chrétien? Je suis membre du corps de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il écrit dans les versets 3. À 5, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous formons un seul corps en Christ. Paul ne dit pas traînez autour d'une assemblée pendant quelques années et peut-être que vous ferez partie de ce corps. Paul nous dit parce que vous êtes unis à Christ, parce que vous êtes chrétien, parce que vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, vous faites partie maintenant de ce corps. Paul utilise cette image de l'Église comme un corps à différents endroits. Et on a lu ce passage en Éphésiens chapitre 4. Ici, c'est peut-être la forme la plus simple. Paul nous dit que nous appartenons à un corps, que nous sommes membres d'un corps, que ce corps a différentes parties et que ce corps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas notre corps, c'est son corps. Et parce que nous appartenons à ce corps, nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons les uns aux autres. Est-ce que vous voyez la logique de l'argumentation de l'apôtre Paul? Étant donné que nous appartenons au corps de Christ, le corps ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas le Seigneur du corps, c'est Christ. Et nous lui appartenons. Et parce que nous sommes membres de ce corps, Paul nous dit que nous sommes tous membres les uns des autres. Versets 4 et 5, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et voyez comment cette vérité que nous formons un seul corps transforme non seulement nos vies sur le plan individuel, mais cela transforme aussi comment nous voyons les autres. Cela veut dire que nous n'appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons au corps de Christ. Et on voit de suite que c'est une idée révolutionnaire. Quand l'Église comprend cette vérité, quand elle vit cette vérité, c'est une véritable révolution. Parce que dans le monde nous enseigne que nous nous appartenons à nous-mêmes et que les autres nous appartiennent. Malheureusement, on peut tirer cette perspective du monde et de notre ancienne humanité dans l'Église et vivre de manière égocentrique. Mais on ne peut pas. On ne peut pas vivre de cette façon-là. Puisque, comme Paul nous le rappelle, nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Quand on saisit cela, cela fait toute une différence dans une assemblée. Par nature, nous sommes des êtres possessifs. Nous aimons posséder. Nous sommes très lents à nous donner aux autres. Mais nous devons prendre conscience que nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Le problème, en suivant le monde, ce n'est pas seulement que nous gardons les distances avec les autres, mais que nous ne vivons pas libres nous-mêmes. Nous ne vivons pas selon notre identité. Or, comme Paul le souligne, nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Christ nous a rachetés. Il a payé le prix de la rançon. Il nous a donné aux autres membres du corps. Et nous faisons partie de ce corps. Nous faisons partie les uns des autres. Quand on commence à comprendre cela, quand on commence à comprendre que c'est là que j'appartiens, c'est au corps de Christ que j'appartiens, on abandonne, on commence à abandonner notre égoïsme, notre protection de soi, notre réticence à se donner. On abandonne ces formes d'hypocrisie qui s'accrochent à nous. Nous faisons semblant d'être ce que nous savons ne pas être. Ou nous ne voulons pas que les autres découvrent nos faiblesses, notre vulnérabilité. Et on ne peut pas vivre de cela dans le corps de Christ. Sinon, on renie ce que Christ a créé, c'est-à-dire l'assemblée que Christ a créée, l'assemblée à laquelle nous faisons partie. Je me demande si ce n'est pas la raison pour laquelle la discipline céleste dans l'Église primitive sur Ananias et Saphira était si terrible. Pierre, vous rappelez, leur a dit clairement qu'ils n'avaient aucune obligation de vendre quoi que ce soit, aucune obligation d'apporter l'argent. Ils auraient très bien pu vendre leurs biens et n'apporter que la moitié de l'argent. Mais apporter l'argent en prétendant que c'était la totalité de la vente, qu'est-ce que cela voulait dire ? Cela voulait dire, voilà, nous ne sommes pas prêts à nous donner à ce groupe. Nous recherchons une certaine influence basée sur le fait de garder quelque chose pour soi. Et c'est l'instinct primaire du pécheur, se garder pour soi-même. Certaines personnes peuvent être très sociables et ne pas se donner aux autres, parce qu'elle domine sur les autres et les autres se contentent d'écouter. Mais Paul nous dit que lorsque nous comprenons cette nouvelle communauté que le Seigneur Jésus-Christ a créée, voyant que l'Église ne ressemble à rien d'autre dans le monde, il y a quelque chose de céleste dans l'Église, quand l'Église vit sa réalité. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Ce n'est pas un club social, ce n'est pas un rassemblement de personnes qui aiment les mêmes activités. Non, c'est une œuvre de la grâce de Dieu qui rassemble des personnes d'origines différentes, de personnalités différentes. Il les rassemble pour former un seul corps. Ces croyances appartiennent les uns aux autres et ils sont appelés à ne rien garder pour eux-mêmes. Ils appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Et ils appartiennent les uns aux autres. C'est quelque chose que nous devons apprendre à faire, se donner aux autres, se mettre à part pour les autres. Ce n'est pas forcément quelque chose de facile, même dans l'Église. La semaine passée, j'ai vu cette citation de C.S. Lewis sur un site où quelque chose, et C.S. Lewis montre le danger de ne pas se donner. Il écrit dans, c'est un extrait de son livre « Les quatre amours ». Et il dit « Aimer, c'est être vulnérable. Aimer n'importe quoi, et votre cœur sera certainement fendu, peut-être brisé. Si vous voulez être certain de le garder intact, vous ne devez donner votre cœur à personne. » pas même à un animal. Enveloppez-le soigneusement avec des hobbies et des petits luxes. Évitez tout enchevêtrement. Enfermez-le bien à l'abri dans le cercueil de votre égoïsme. Mais dans ce cercueil, votre cœur changera. En sécurité, dans le noir, immobile, privé d'air, votre cœur deviendra impénétrable, irréparable. La seule place en dehors des cieux où vous pouvez être parfaitement à l'abri de tous les dangers et risques d'amour est l'enfer. Se donner aux autres, se mettre à part pour les autres, ce n'est pas forcément quelque chose de facile, mais l'apôtre Paul veut que nous sachions quelle est notre identité en Christ, mais aussi à quel camp nous appartenons, ce à quoi nous sommes appelés. Nous faisons partie de la famille de Christ. Nous sommes appelés à nous donner les uns aux autres. Troisièmement, Paul veut que le chrétien sache pour quel but il est en Christ. Et là, il se tourne vers les dons spécifiques. On ne va pas les étudier en détail. Mais voyez ce que Paul est en train de faire ici. Il dit, sachez qui vous êtes réellement. Sachez à quel camp vous appartenez. Sachez pour quel but vous êtes dans ce camp. Parce que dans tous les dons que Paul décrit, il y a les ministères de la parole, il y a les ministères de direction, le ministère de service. Dans chaque cas, quel que soit le don reçu de la part de Dieu, quel que soit le ministère auquel Dieu appelle, Paul nous dit, mettez tout ce que vous pouvez, toute votre force, toutes vos énergies pour accomplir ce à quoi Dieu vous appelle. Utilisez ces dons au maximum pour le peuple de Dieu. Et puisque chacun appartient à tous les autres, que chacun a reçu un don différent, il ne l'a pas fabriqué, il l'a reçu. Chaque don n'a pas été donné pour un usage privé, mais pour le bien de l'Église, pour le bien de tous. Et il fait la liste. Si votre don est la prophétie, Paul va parler de la prophétie plus tard, qui édifie, qui fait grandir le corps de Christ, parce qu'elle fait en sorte que la révélation de Dieu vienne s'appliquer dans les vies, dans les circonstances dans lesquelles les croyants se trouvent. La parole de Dieu vient éclairer, vient encourager. Si votre don est la prophétie, alors exercez-le en proportion de la foi. Mais si votre don est le service, traduit ici par ministère, en grec c'est le mot diakonia, si votre don est le service et le ministère, alors profitez-en. Non? Non, si votre don est le ministère et le service, alors servez. Attachez-vous à votre ministère, attachez-vous à votre service, parce que c'est pour cela que le Seigneur vous a créé. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui exhorte, celui qui encourage à l'exhortation. Même parmi les enseignants, il y a des différences. Certains sont plus capables pour l'explication, d'autres sont plus capables dans l'exhortation, l'encouragement. Et Paul ne nous dit pas de choisir, de faire une préférence, j'aime cet enseignement, celui-là je ne l'aime pas. Non. Mais de remercier Dieu de n'avoir pas donné tous ses dons à une seule personne, à l'exception de Seigneur Jésus-Christ, afin que nous apprenions combien nous avons besoin les uns des autres et les dons des uns des autres. Et Paul continue, que celui qui donne, quel est le pourcentage? Non, que celui qui donne le fasse avec libéralité, généreusement, librement. Que celui qui préside, que celui qui dirige, le fasse avec zèle, avec une passion pour le faire, parce que c'est ce à quoi Dieu l'a appelé. Et Paul termine sa liste en disant que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. C'est intéressant qu'il précise avec joie. Imaginez une personne qui exerce la miséricorde, qui visite les malades à l'hôpital, et que tous les malades à l'hôpital, tous les malades qu'elle visite, ne souhaitent qu'une chose, c'est que cette personne qui les visite quittent leur chambre parce qu'elle est décourageante, parce qu'elle est déprimante. Non, Paul dit que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, avec gaieté de cœur. Parce qu'on vit dans un monde décourageant, même un monde découragé. Même le monde évangélique a été envahi par une attitude de plainte, de se plaindre, et très peu de gaieté de cœur. En fait, on pourrait terminer le message ici en disant, voilà, soyez des chrétiens heureux, remplis de joie, des chrétiens connus pour votre gaieté de cœur. Comme Paul le dira aux Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mais certains vont dire, il y a une grande liste de dons ici, je ne sais pas quelle est ma place. Mais notre place est quelque part, dans le corps, et même dans l'expression locale du corps. Est-ce qu'on n'a rien à donner? Est-ce qu'on n'a pas de miséricorde à pratiquer? Est-ce qu'on ne connaît rien? Est-ce qu'on n'a rien à enseigner aux autres? Trop souvent, les personnes vont dire, « Ah ben, quand j'occuperai cette position, alors je ferai cela. » Non, mais Paul ne parle pas de position à occuper ici. Il parle de choses que l'on fait quotidiennement. Alors comment découvrir le don, son don? C'est très simple, dans le corps de Christ. On se donne aux autres. On fait ce qu'on peut pour les autres dans l'Église. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit de cette femme dans le temple. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a donné ce qu'elle a pu donner. On ne doit pas se passer son temps à dire « quand je vais occuper ce poste, alors je vais faire ceci ou cela ». Non, faisons ce qui est juste, ce qui se trouve devant nous. Quand on voit le besoin, que l'on répond à ce besoin selon les dons que Dieu nous a donnés, on découvre quels sont les véritables dons en fonction des réactions des autres. Ils voient de quoi nous sommes capables. Ils voient aussi quelles sont nos limites, ce que nous avons du mal à accomplir. Dans une assemblée, il doit y avoir cette liberté de laisser les uns et les autres découvrir quels sont leurs dons, voir ce dont quoi ils sont capables, voir ce qui est au-delà de leurs capacités. Parfois, il faut les encourager. Parfois, il faut suggérer quelque chose et on découvre que cette personne est très capable. Parfois, il faut reconnaître que leur don ne se trouve pas dans un tel domaine, mais plutôt dans un autre. Cela ne change rien à leur identité. Cela ne change rien à leur appartenance à l'Assemblée. Chacun a sa place. Nous nous appartenons les uns aux autres. Et quand on utilise les dons que Dieu nous a accordés, non pas en pensant « ceci est mon don », mais plutôt en pensant « voilà le besoin et je veux répondre à ce besoin ». Quand on utilise les dons au service de Dieu, les autres autour de nous viendront nous encourager pour nous aider à voir que, effectivement, c'est là mon don. On se donne aux autres. Et on voit comment Dieu nous fait grandir dans ce rôle qu'il nous donne dans l'assemblée où il nous a placés. C'est une chose importante de savoir que nous sommes dans une assemblée pour le bien des autres. Dans l'Église, avec un grand E, mais aussi dans l'Église locale, nous sommes dans une assemblée pour le bien des autres. Et quand on sait cela, et quand on découvre et que l'on exerce le don que Dieu nous a accordé, on peut se reposer avec joie et exercer ce don pour le service du corps de Christ. En fin de compte, la question, c'est est-ce que nous avons un cœur de serviteur, de servir les autres, ou est-ce que nous gardons pour nous-mêmes? Paul veut que nous sachions qui nous sommes en Christ, notre identité en Christ. Il veut que nous sachions à quel camp nous appartenons, que nous sommes membres de la famille de Dieu, membres les uns des autres. Il veut que nous sachions dans quel but Dieu nous a fait entrer dans sa famille pour servir les autres à tous les niveaux, selon le don qu'il nous a accordé, pour servir le corps et vivre pour le bien de tous. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses, qu'il nous aide à saisir ces réalités, qu'il nous aide à les vivre pour sa gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.